Herbert George Wells. La machine à explorer le temps. Chapitre 1er. Initiation. L'explorateur du temps, car c'est ainsi que, pour plus de commodité, nous l'appellerons, nous exposait un mystérieux problème. Ses yeux gris et vifs étincelaient, et son visage, habituellement pâle, était rouge et animé. Dans la cheminée, la flamme brûlait joyeusement, et la lumière douce des lampes à incandescence, en forme de lys d'argent, se reflétait dans les bulles qui montaient brillantes dans nos verres. Nos fauteuils, dessinés d'après ces modèles, nous embrassaient et nous caressaient au lieu de se soumettre à regret à nos séances. Il régnait cette voluptueuse atmosphère d'après-dîner où les pensées vagabondaient gracieusement, libres des entraves de la précision. Et il nous expliqua la chose de cette façon, insistant sur certains points avec son index maigre, tandis que, renversés dans nos fauteuils, nous admirions son ardeur et son abondance d'idées pour soutenir ce que nous croyons alors un de ses nouveaux paradoxes. Suivez-moi bien, il va me falloir discuter une ou deux idées qui sont universellement acceptées. Ainsi, par exemple, la géographie qu'on vous a enseignée dans vos classes est fondée sur un malentendu. Est-ce que ce n'est pas là entrer en matière avec une bien grosse question ? Demanda Philby, raisonneur à la chevelure rousse. Je n'ai pas l'intention de vous demander d'accepter quoi que ce soit sans argument raisonnable. Vous admettrez bientôt tout ce que je veux de vous. Vous savez, n'est-ce pas, qu'une ligne mathématique, une ligne de dimension nulle, n'a pas d'existence réelle. On vous a enseigné cela. De même pour un plan mathématique, ces choses sont de simples abstractions. Parfait, dit le psychologue. De même, un cube n'ayant que longueur, largeur et épaisseur, peut-il avoir une existence réelle ? Ici, j'objecte, dit Philby. Certes, un corps solide existe, toute chose réelle. C'est ce que croient la plupart des gens. Mais attendez un peu. Est-ce qu'il peut exister un cube instantané ?
Je n'y suis pas, dit Philby.
Est-ce qu'un cube peut avoir une existence réelle sans durer pendant un espace de temps quelconque ? Philby devint pensif. Manifestement, continua l'explorateur du temps, tout corps réel doit s'étendre dans quatre directions. Il doit avoir longueur, largeur, épaisseur et durée. Mais par une infirmité naturelle de la chair, que je vous expliquerai dans un moment, nous inclinons à négliger ce fait. Il y a en réalité quatre dimensions, trois que nous appelons les trois plans de l'espace et une quatrième, le temps. On tend généralement à établir une distinction factice entre les trois premières dimensions et la dernière, parce qu'il se trouve que nous ne prenons conscience de ce qui nous entoure que par intermittence, tandis que le temps s'écoule du passé vers l'avenir, depuis le commencement jusqu'à la fin de votre vie. « Ça, dit un jeune homme qui faisait des efforts spasmodiques pour rallumer son cigare au-dessus de la lampe, ça, très clair, vraiment. » Or, n'est-il pas remarquable que l'on néglige une telle vérité ? Continua l'explorateur du temps avec un léger accès de bonne humeur. Voici ce que signifie réellement la quatrième dimension. Beaucoup de gens en parlent sans savoir ce qu'ils disent. Ce n'est qu'une autre manière d'envisager le temps. Il n'y a aucune différence entre le temps, quatrième dimension, et l'une quelconque des trois dimensions de l'espace, sinon que notre conscience se meut avec elle. Mais quelques imbéciles se sont trompés sur le sens de cette notion. Vous avez tous su ce qu'ils ont trouvé à dire à propos de cette quatrième dimension. « Non, pas moi, » dit le provincial. « Simplement ceci. L'espace, tel que nos mathématiciens l'entendent, est censé avoir trois dimensions, qu'on peut appeler longueur, largeur et épaisseur. Et il est toujours définissable par référence à trois plans, chacun à angle droit avec les autres. » Mais quelques esprits philosophiques se sont demandé pourquoi exclusivement trois dimensions ? Pourquoi pas une quatrième dimension à angle droit avec les trois autres ? Et ils ont même essayé de construire une géométrie à quatre dimensions. Le professeur Simon Newcomb exposait celle-ci il y a 4 ou 5 semaines à la Société mathématique de New York. Vous savez comment, sur une surface plane qui n'a que 2 dimensions, on peut représenter la figure d'un solide à 3 dimensions. À partir de là, ils soutiennent que, en partant d'images à 3 dimensions, ils pourraient en représenter une à 4 s'il leur était possible d'en dominer la perspective. Vous comprenez ? « Je pense que oui, » murmura le provincial. Et, fronçant les sourcils, il se perdit dans des réflexions secrètes, ses lèvres s'agitant comme celles de quelqu'un qui répète des versets magiques. « Oui, je crois que j'y suis maintenant, » dit-il au bout d'un moment, et sa figure s'éclaira un instant. « Bien, je n'ai pas de raison de vous cacher que, depuis un certain temps, je me suis occupé de cette géométrie des 4 dimensions. » J'ai obtenu quelques résultats curieux. Par exemple, voici une série de portraits de la même personne à 8 ans, à 15 ans, à 17 ans, un autre à 23 ans, et ainsi de suite. Ils sont évidemment les sections, pour ainsi dire, les représentations sous 3 dimensions d'un être à 4 dimensions qui est fixe et inaltérable. Les hommes de science, continua l'explorateur du temps, après nous avoir laissé le loisir d'assimiler ces derniers mots, savent parfaitement que le temps n'est qu'une sorte d'espace. Voici un diagramme scientifique bien connu. Cette ligne que suit mon doigt indique les mouvements du baromètre. Hier, il est monté jusqu'ici, hier soir, il est descendu jusque-là, puis ce matin, il s'élève de nouveau, et doucement, il arrive jusqu'ici. À coup sûr, le mercure n'a tracé cette ligne dans aucune des dimensions de l'espace généralement reconnues. Il est cependant certain que cette ligne a été tracée, et nous devons donc en conclure qu'elle fut tracée au long de la dimension du temps. « Mais, dit le docteur en regardant fixement brûler la houille, si le temps n'est réellement qu'une 4e dimension de l'espace, pourquoi l'a-t-on considéré et le considère-t-on encore comme différent ? Et pourquoi ne pouvons-nous pas nous mouvoir çà et là dans le temps, comme nous nous mouvons çà et là dans les autres dimensions de l'espace ?» L'explorateur du temps sourit. « Êtes-vous bien sûr que nous pouvons nous mouvoir librement dans l'espace ? Nous pouvons aller à gauche et à droite, en avant et en arrière, assez librement, et on l'a toujours fait. J'admets que nous nous mouvons librement dans 2 dimensions. Mais que direz-vous des mouvements de haut en bas et de bas en haut ? Il semble qu'alors la gravitation nous limite singulièrement. » « Pas précisément, dit le docteur, il y a les ballons. Mais avant les ballons, et si l'on excepte les bonds spasmodiques et les inégalités de surface, l'homme est tout à fait incapable du mouvement vertical. Toutefois, il peut se mouvoir quelque peu de haut en bas et de bas en haut. Plus facilement, beaucoup plus facilement, de haut en bas que de bas en haut. Et vous ne pouvez nullement vous mouvoir dans le temps. Il vous est impossible de vous éloigner du moment présent. Mon cher ami, c'est là justement ce qui vous trompe. C'est là justement que le monde entier est dans l'erreur. Nous nous éloignons incessamment du moment présent. Nos existences mentales, qui sont immatérielles et n'ont pas de dimension, se déroulent au long de la dimension du temps avec une vélocité uniforme, du berceau jusqu'à la tombe, de la même façon que nous voyagerions vers le bas si nous commencions nos existences 50 km au-dessus de la surface de la Terre. Mais la grande difficulté est celle-ci, interrompit le psychologue. Vous pouvez aller de ci, de là, dans toutes les directions de l'espace, mais vous ne pouvez aller de ci, de là, dans le temps. C'est là justement le germe de ma grande découverte. Mais vous avez tort de dire que nous ne pouvons pas nous mouvoir dans tous les sens du temps. Par exemple, si je me rappelle très vivement quelque incident, je retourne au moment où il s'est produit. Je suis distrait, j'ai l'esprit absent, comme vous dites. Je fais un saut en arrière pendant un moment. Naturellement, nous n'avons pas la faculté de demeurer en arrière pour une longueur indéfinie de temps, pas plus qu'un sauvage ou un animal ne peut se maintenir à 2 mètres en l'air. Mais l'homme civilisé est à cet égard mieux pourvu que le sauvage. Il peut s'élever dans un ballon en dépit de la gravitation, et pourquoi ne pourrait-il espérer que finalement il lui serait permis d'arrêter ou d'accélérer son impulsion au long de la dimension du temps, ou même de se retourner et de voyager dans l'autre sens?
Oh, ça par exemple, commença Philby, c'est...
Pourquoi pas? Demanda l'explorateur du temps. C'est contre la raison, acheva Philby.
Quelle raison? Dit l'explorateur du temps.
Vous pouvez par toutes sortes d'arguments démontrer que le blanc est noir et que le noir est blanc, dit Philby, mais vous ne me convaincrez jamais.
Peut-être bien, dit l'explorateur du temps, mais vous commencez à voir maintenant quel fut l'objet de mes investigations dans la géométrie des 4 dimensions. Il y a longtemps que j'avais une vague idée d'une machine.
Pour voyager à travers le temps ? S'exclama le très jeune homme.
Qui voyagera indifféremment dans toutes les directions de l'espace et du temps, au gré de celui qui la dirige.
Philby se contenta de rire. Mais j'en ai la vérification expérimentale, dit l'explorateur du temps.
Voilà qui serait fameusement commode pour un historien, suggéra le psychologue.
On pourrait retourner en arrière et vérifier par exemple les récits qu'on nous donne de la bataille de Hastings.
Ne pensez-vous pas que vous attireriez l'attention ? Dit le médecin. Nos ancêtres ne toléraient guère l'anachronisme.
On pourrait apprendre le grec des lèvres mêmes d'Homère et de Platon, pensa le très jeune homme.
Dans ce cas, il vous ferait coller certainement à votre premier examen. Les savants allemands ont tellement perfectionné le grec.
C'est là qu'est l'avenir, dit le très jeune homme. Pensez donc, on pourrait placer tout son argent, le laisser s'accumuler à intérêts composés et se lancer en avant.
À la découverte d'une société édifiée sur une base strictement communiste, dis-je.
De toutes les théories extravagantes ou fantaisistes, commença le psychologue.
Oui, c'est ce qu'il me semblait. Aussi, je n'en ai jamais parlé jusqu'à...
La vérification expérimentale, m'écriai-je. Allez-vous vraiment vérifier cela?
L'expérience, cria Philby, qui se sentait la cervelle fatiguée.
Eh bien, faites-nous voir votre expérience, dit le psychologue. Bien que tout cela ne soit qu'une farce, vous savez.
L'explorateur du temps nous regarda tour à tour en souriant. Puis, toujours avec son léger sourire et les mains enfoncées dans les poches de son pantalon, il sortit lentement du salon et nous entendîmes ses pantoufles traîner dans le long passage
qui conduisait à son laboratoire. Le psychologue nous regarda. Je me demande ce qu'il va faire. Quelque tour de passe-passe ou d'escamotage, dit le docteur. Puis Philby entama l'histoire d'un prestidigitateur qu'il avait vu à Burslem. Mais avant même qu'il eût terminé son introduction, l'explorateur du temps revint et l'anecdote en resta là.